Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur Radio B.
Bonjour, je m'appelle Ibrahim et je suis ravi d'être avec vous pour vous présenter cette émission.
Moi c'est Mohamed, avec nous Nicolas, Ben et Reda. Une émission enregistrée au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Au programme de cette émission, une plongée dans les senteurs, dans les parfums.
Radio B.
Les bonnes ondes.
Le parfum vient du latin perfumum, qui signifie par la fumée.
Les Égyptiens sont les peuples les plus anciens à avoir utilisé le parfum. À la base, c'était une utilisation religieuse. On utilisait le parfum dans différentes étapes de la vie, jusqu'à la mort.
D'ailleurs, on a retrouvé dans la tombe de Toutankhamon 3000 jars de parfum qui sentent encore un certain arôme.
Les peuples grecs et romains ont aussi utilisé le parfum. Il était sacré, mais a aussi servi en médecine, notamment avec les différentes herbes. L'hygiène devient importante. On utilise le sapeau, l'ancêtre du savon. C'est à cette époque qu'il crée les flacons de parfum en verre.
Dans la Bible, la coutume était de s'asperger de parfum avant chaque repas. On brûlait aussi des arômes pour agrémenter les salles de festin. Encore une fois, le parfum a un sens religieux. Certaines senteurs sont considérées comme celles des justes et d'autres sont réservées au sacrifice. Certains parfums sont ceux de la connaissance.
Dans la culture musulmane et dans le monde arabe, on retrouve ces trois utilisations du parfum. Religieuse, pour l'hygiène et médicale. Une senteur est très utilisée, le parfum de la rose.
Arrive ensuite le Moyen-Âge. Le parfum devient alors quasiment inexistant, à cause des guerres. Il est réintroduit avec les croisades qui ramènent le commerce entre l'Orient et l'Occident avec l'arrivée de nouvelles épices. À la Renaissance, le parfum sert à cacher les odeurs corporelles. Les gens ne se lavaient pas, ils craignaient l'eau à cause des maladies.
De nouvelles senteurs arrivent pour masquer les odeurs corporelles. L'ambre, le musc, le jasmin ou la tubéreuse. Avec la découverte de Christophe Colomb, arrive la vanille, le cacao, le poivre, la cannelle, le tabac.
Sous Louis XIV, on continue à masquer les mauvaises odeurs grâce au parfum. On craint toujours l'eau. C'est à partir du XVIIIe siècle que la parfumerie revient, notamment avec les apports de Marie-Antoinette. La parfumerie évoluera encore au fur et à mesure des années, et de grands noms apparaîtront au début du XIXe siècle, Roger Gallet ou encore la maison Guerlain.
Au XXe siècle, le parfum devient un produit de luxe. Le mythique Chanel numéro 5 est créé dans les années 20.
Le parfum n'aura de cesse d'évoluer jusqu'à devenir un vrai produit marketing.
C'est quoi ton parfum à toi ?
Déclaration de quartier.
Tu connais Dieu bleu ?
Dieu bleu ? Bleu de Chanel, tu veux dire ?
Non, non, c'est bien Dieu bleu. Reda t'explique tout.
Les Égyptiens avaient inventé un parfum. Son origine remonte à 1500 avant Jésus-Christ, dans l'Égypte des pharaons. Ce parfum s'appelait le kifi. Il a plusieurs versions et plusieurs propriétés, médicinales entre autres. On utilisait des plantes pour le produire. Parmi elles, les bêtes de genièvre, le roseau, les raisins secs, le vin et la myrrhe. La plus ancienne mention d'une des versions de ce parfum a été retrouvée dans un papyrus médical. On en trouvait d'autres sur les murs des temples en Égypte et même dans les écrits de Plutarque. En septembre 2022, la marque Astier de Villatte a commercialisé son nouveau parfum appelé Dieu Bleu. La particularité de cette fragrance, c'est qu'ils ont reconstitué le kifi égyptien. Ils ont été aidés par une historienne anthropologue et un parfumeur. Des scientifiques avaient déjà tenté l'expérience il y a quelques années avec des recettes de l'Antiquité.
Quelle odeur vous rappelle des souvenirs ?
Alors, une odeur qui me rappelle des souvenirs, tiens, l'odeur du pop-corn. Quand mon oncle m'emmenait au cinéma, quand j'étais jeune, ça me rappelle, vous savez, cette odeur de maïs grillé.
Une odeur d'oignon frit. C'est l'odeur que je chantais le matin quand j'arrivais chez la nounou. Parce qu'elle était déjà en train de préparer le repas du midi. Et souvent, elle faisait frire des oignons. Moi, j'avais pas pris mon petit-déj, donc c'était à la fois une odeur un peu répugnante, mais en même temps appétissante. C'est un peu bizarre, c'est un mix de deux sentiments.
L'odeur du kebab me rappelle d'énormes souvenirs, en fait. Et oui, franchement, je vous dis la vérité, c'est quelque chose qui évoque mon enfance et j'adore le kebab.
Alors j'ai une odeur qui me marque, c'est l'odeur de la fête foraine en fait. C'est le souvenir de l'amusement, des jeux et puis aussi l'odeur de la barbe à papa, voilà.
Je dirais le pain grillé dans la caravane quand j'étais petite en vacances. C'était sur une petite plaque en métal Et du coup, alors forcément, vu que c'est dans une caravane, ça sent très très fort et très très vite quand ça brûle pas. C'était le moment des vacances en famille quand j'étais petite, donc c'est vrai que c'est une odeur et c'est pas très souvent. Il faut avoir le temps. Généralement, moi le matin, petit déjeuner, c'est un peu rapide. Donc dès qu'il y a une odeur de pain grillé, ça sent les vacances quoi.
L'eucalyptus. Souvenir de vacances au Portugal. Voilà, c'est des odeurs familières.
Je sais pas, j'irais. L'odeur du parfum de mon père. Il avait une odeur assez spécifique et qui mettait tout le temps et que j'aimais beaucoup en fait. Donc j'aimais beaucoup prendre ses écharpes, prendre ses vêtements, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui me réconforte et qui est agréable.
Et pourriez-vous nous décrire l'odeur que vous préférez ?
Alors l'odeur que je préfère, c'est... L'odeur du goudron. Quand j'étais plus jeune, alors ma rue était en construction. Ça veut dire que cette odeur m'a vraiment interpellé. Et c'est pour ça que je la porte à cœur.
Il me semble que c'est l'odeur du pain d'épices. Alors je me rappelle que ma grand-mère faisait du pain d'épices. Donc c'est beaucoup avec des zestes d'orange, de citron, fruits confits. Donc c'est ça qui me rappelle l'odeur du pain d'épices.
L'odeur que je préfère, alors là, il y en a pas mal. Mais celle qui me remonte le plus à la narine, c'est l'odeur de la crêpe. Ça me rappelle mes vacances à Nantes chez un ami. Il faisait cuire, il faisait des crêpes excellentes.
J'aime bien l'odeur du jasmin. L'odeur des oignons frits, je l'aime toujours cette odeur. Maintenant, je l'aime vraiment beaucoup parce que elle est plus à des horaires convenables quand je l'utilise. L'odeur de mes enfants, j'aime bien les renifler. C'est une odeur particulière puis qui évolue. L'odeur de certains parfums. Il y a des personnes, je trouve qu'elles dégagent, en plus de leur parfum, une odeur... le parfum est super présent. Je ne saurais pas dire quel parfum en particulier, mais tu as des personnes... Les parfums sont hyper présents. Ça, j'aime bien quand tu sens le parfum des gens.
Tout ce qui se rapproche à la nature, aux herbes, aux fleurs... Même aux écorces d'arbres ou à la pluie qui tombe. Tout ce qui me rappelle tout ça, c'est ce que j'aime.
J'aime bien l'odeur des sous-bois. J'adore ramasser les champignons, donc ça passe très bien.
Alors, l'odeur que je préfère, c'est aussi lié aux vacances, c'est en Bretagne ou dans les Landes, c'est l'odeur des embruns, l'océan. Donc l'océan, quand l'océan se retire ou quand l'océan revient, il y a vraiment cette odeur spécifique, c'est à la fois l'iode, le sel, et puis dans le vent. Et du coup, là aussi, ça sent les vacances.
À propos des odeurs et des parfums, Mohamed, tu as lu un roman ?
Lecteur, lectrice, j'aimerais vous présenter le livre de Marie Mangès. Il parle du parfum et des odeurs. Dans ce livre, on retrouve des personnages intrigants, comme Sylvain, thanatopracteur, et Alice, étudiante, avide d'informations. Ce qui a attiré mon attention dans ce livre, c'est le personnage de Sylvain Bragonard, mystique, plutôt réservé. J'ai commencé à m'apercevoir en lisant les premières pages de ce livre qu'il s'agit plutôt d'un personnage renfermé sur lui-même et complètement dévoué envers son métier de thanatopracteur. Au fil des pages, je commence à m'apercevoir qu'une sorte d'amitié se lie entre Sylvain et Alice. C'est plus ou moins tendu au début, car Sylvain est réservé et sur la défensive. De fil en aiguille, on se rend compte qu'il n'est pas un simple thanatopracteur. Il vit et surtout ressent son métier comme un auteur se voue à une œuvre qu'il a commencé à écrire. Il respire son métier, sans mauvais jeu de mots. Alice lui partage sa musique, mais Sylvain n'est pas ouvert. Il n'est pas prêt à partager ses passions avec une inconnue. Ce personnage m'attire, car je le trouve mystérieux. C'est ce qui m'a fait accrocher au livre. Ça laisse du suspense, on a envie de le découvrir. On veut savoir ce qu'il ressent lorsqu'il respire les morts. Plus loin, je m'aperçois que Sylvain est hanté par une sorte d'entité, prénommée Jus. Elle fait partie du passé de Sylvain. Elle apparaît dans ses pensées via l'odeur de muscade qui lui rappelle le pneu brûlé, qu'il semble le mettre dans tous ses états. Angoisse, colère, une sorte de bouillonnement intérieur. On comprend qu'il a eu un accident, que Jus est morte et qu'il traverse le passé avec son odorat. Sylvain est comme emprisonné par son propre sens de l'odorat. Il n'arrive pas à s'en défaire. Ça me donne envie de connaître la suite, de découvrir de nouveaux personnages. Quand on lit la fin, on est stupéfait. On ne s'y attend pas. Au final, on découvre un personnage dans un lieu qu'on ne connaît pas.
Marie Mangès, bonjour. Vous êtes l'autrice du roman Le Parfum des Cendres. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ?
Ça faisait déjà un bout de temps que j'écrivais. Et en fait, cette histoire-là, elle est apparue à une période un peu particulière parce que c'était pendant le premier confinement, genre Covid, ambiance, voilà. Et en fait, elle est née d'une expérience super personnelle qui est que moi, j'ai perdu l'odorat pendant cette période-là. Et donc, du coup, je me suis aperçue à ce moment-là de l'importance de ce sens. En fait, moi, je ne me rendais pas compte. Je me disais, l'odorat, on s'en fout un peu. Et en fait, quand je l'ai perdu, je me suis rendu compte de tout ce qu'on perdait avec ça. Et donc, en fait, l'histoire, elle s'est un peu tricotée dans ma tête à ce moment-là. Et l'histoire, elle est vraiment née de ça.
Comment on se lance dans l'écriture d'un roman ?
Comment on se lance dans l'écriture de roman ? C'est un peu compliqué de répondre. Je saurais pas trop dire. À un moment donné, ça passe avec des personnages. Genre, à un moment donné, j'ai un personnage qui se crée dans ma tête. Genre, mon ami imaginaire à côté, là. Non, je déconne. Et puis, à un moment donné, on a envie de donner vie à ce personnage, en fait. Et puis, ça se fait par des mots, parce qu'il y en a d'autres qui vont passer par le dessin, par le film. Et puis, moi, ça passe par des mots. Du coup, je sais pas si ça répond à votre question, mais. C'est très différent en fonction des gens. Moi, je suis un peu psychorigide, donc je fais des plans. Genre, j'ai mon histoire, j'ai mon personnage en tête, et puis ensuite, je me dis, qu'est-ce qui va lui arriver ? Et donc, avant d'écrire, en général, j'ai l'histoire dans ma tête, en fait. Je me dis, voilà, mon personnage, il va faire ça, et puis il va lui arriver ça. Et à la fin, il faut que j'arrive là. Et donc, en fait, je mets déjà toute l'histoire sur le papier. Et après, je commence à l'écrire, en fait. Moi, j'arrive pas à me dire, mu par l'inspiration divine, je commence, et sans savoir où je vais. Et moi, j'arrive pas à faire ça, par exemple. Il faut vraiment que j'ai toute mon histoire en tête avant de commencer vraiment à mettre les mots dessus. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Donc l'histoire, elle se tricote un peu dans ma tête toute seule pendant plusieurs jours et après, je m'y mets, quoi.
Pour écrire un livre, on doit respecter des règles et pas s'éparpiller dans tous les sens.
Alors je sais pas si c'est des règles hyper formelles. Je pense que c'est des règles... Aussi, pour que le livre soit intéressant, il faut qu'à un moment donné, ça suive un fil rouge. Et si on part dans tous les sens et que ça devient illisible, en fait, c'est quelque chose qu'on s'impose à soi-même. Mais après, il n'y a pas de règles super formelles, genre de manuel, justement, d'écriture, de roman qu'on soit obligé de suivre. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on est vraiment très libre. Et qu'après, on peut faire ce qu'on veut à partir de là, à partir du moment où l'histoire, elle est lisible et elle est claire pour pour le lecteur, quoi. Donc ça impose qu'on soit aussi super clair soi-même. C'est-à-dire, si moi, parfois, j'ai l'impression de me paumé un peu moi-même, je ne sais plus très bien ce que je veux dire. Là, on sort du cadre du roman. On sent qu'on s'éloigne et qu'il faut qu'on revienne à la ligne initiale. Après, c'est bien que, oui, qu'il y ait une vraie fin et pas un truc un peu en queue de poisson ouvert. Ça, c'est un peu une règle qu'on doit s'imposer, je pense, qu'il y ait une vraie fin constituée. Et après, dans les registres de langage, là, il n'y a pas de règles. Alors moi, on m'a beaucoup reproché qu'il y ait beaucoup de gros mots dans ce livre et que, justement, ça correspond pas toujours à un langage très soutenu, très littéraire. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que dans les livres que je lis, j'aime bien qu'il y ait en fait toute la richesse du langage, qu'il y ait de l'argot, aussi bien que des mots un peu plus soutenus et un peu plus élégants. Moi, j'aime bien qu'il y ait tout ça. Donc moi, personnellement, je m'impose pas du tout de règles à ce niveau-là. Mais ça plaît pas à tout le monde. Il y en a qui disent que quand on écrit un livre, il faut forcément, employer des mots un peu élégants. Il faut pas, pas de vulgarité, pas de grossièreté, pas d'argot. Moi, je me mets pas de règles à ce niveau-là, par exemple.
Pour la thématique de l'odorat, est-ce que c'est simplement lié au Covid ?
Alors moi, c'était lié au Covid parce que j'ai vécu l'expérience personnellement. Mais après, ça part pas non plus complètement de nulle part, parce que si, alors je sais pas si ça vous l'avez lu ou si on vous en a parlé du parfum de Patrick Susskind. C'est un bouquin absolument génial qui parle que d'odorat. C'est l'histoire d'un psychopathe, donc c'est un peu différent de mon personnage, mais c'est un livre qui parle vraiment que d'odeur pendant 200 pages d'une façon incroyable. Et donc ça, j'avais déjà ça en tête parce que c'était un bouquin qui m'avait énormément marqué. Parce qu'en fait, les odeurs, c'est très difficile à décrire. On a du mal à trouver des mots pour décrire vraiment les odeurs. C'est quelque chose qu'on ressent personnellement, mais sur lequel on n'a pas de mots. Et je m'étais dit, mais ce mec, il a réussi à mettre des mots. Et moi, je sens, quand je lis, je sens quoi. Je sens vraiment concrètement les odeurs. Et j'avais trouvé ça génial. Et du coup, quand j'ai perdu l'odorat et que je me suis rendu compte de ce qu'on perdait, je me suis dit, j'ai envie d'écrire sur ce sens-là. En fait, on n'en parle pas de sens de l'odorat, on parle de la vue, on parle de l'ouïe, mais l'odorat, en fait, on n'en parle pas. Et donc, j'ai eu envie d'écrire quelque chose dessus. Et c'est là que ce livre m'est revenu en tête, en me disant, si lui, il a réussi à faire ça, moi, je peux essayer, en fait, d'y arriver à ma toute petite échelle. Je vais essayer de faire ça aussi. Donc, ça part pas que du Covid. Il y avait déjà en amont un intérêt pour ça. Mais je veux dire que le grand élément déclencheur, ça a vraiment été la perte d'odorat pendant qui a duré un an quand même. Hein. Donc c'était assez persistant. C'était pas juste pendant 3 jours. J'ai vécu sans odorat pendant un an. Donc ça chamboule tout le rapport au monde en fait. On est obligé de s'adapter à ça, à la perte d'un sens. Donc ça a été quand même le gros élément déclencheur.
Pourquoi avoir choisi le métier de thanatopracteur pour le personnage principal?
Alors c'est vrai que c'est pas un métier évident. Moi, c'est vrai que j'avais entendu parler de la thanatopraxie pendant mes études. À un moment donné, on en avait parlé et je savais même pas ce que c'était. Je savais même pas que c'était, ça correspondait à l'embaumement. J'ai entendu ce mot-là, je savais pas. Et puis, en me renseignant un petit peu, j'ai aussi trouvé ça super intéressant parce que, pareil, comme l'odorat, c'est un métier dont on parle pas du tout. Et en fait, on n'a pas idée quand on perd un proche de tout le processus qu'il y a, de façon souterraine pour aboutir à ce résultat-là. C'est un peu des métiers de l'ombre, c'est des métiers qui sont très peu connus, qui en général sont pas forcément très reconnus dans la société. On dit, le mec, il est nécrophile, il bosse avec les morts. Enfin, il y a beaucoup de préjugés aussi sur ce métier-là. Et donc, c'est quelque chose dont j'avais déjà envie de parler avant. Et c'est aussi ressurgi pendant le Covid parce qu'à ce moment-là, tout était suspendu, on ne pouvait pas enterrer nos proches. Il n'y avait plus de rituels funéraires, plus rien. Et c'est là aussi que c'est revenu en tête, où je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, tous ces métiers-là du funéraire qui nous aident à faire leur deuil, finalement, ils ont énormément d'importance. Quand il n'y a pas, on ne peut pas faire le deuil de nos proches. Donc c'est un peu revenu à ce moment-là. Et quand j'ai eu le mot embaumeur en tête, en fait, ça a fait sens parce qu'embaumeur, il y avait l'odorat et la mort. Et c'était les deux problématiques à ce moment-là qui étaient super présentes dans ma tête. Et donc, ça a fait un peu. Ça a fusionné. Et là, j'ai eu le personnage de Sylvain en tête, en fait, si je dois retracer un peu le processus.
Vous citez des artistes musicaux. C'est important pour vous d'en parler dans votre écriture ?
Ouais, c'est important parce que la musique, c'est hyper important pour moi. J'écris beaucoup en musique aussi. Vraiment, j'avais tous les artistes musicaux que je cite dans le livre, c'est des gens que j'écoute aussi. C'est une musique que j'ai écoutée tout au long du livre. J'avais vraiment ma petite playlist et puis j'ai écouté. Et pour moi, le fait d'écrire, c'est comme de la musique. En fait, c'est très proche en termes de travail. C'est-à-dire que quand on écrit, on essaie de faire sonner les phrases aussi. Moi, j'ai dit dans ma tête. Et puis, en fait, c'est vraiment pour moi très proche du travail d'un musicien. Moi, c'est un art que je respecte beaucoup, la musique, et c'était hyper important pour moi de citer tous ces artistes qui m'ont accompagné en fait dans l'écriture.
Qu'est-ce que vous avez ressenti à la fin de votre écriture ?
Je savais pas très bien ce que c'était que ce truc. Moi, j'ai écrit ça, en plus, j'étais pas du tout publiée, j'ai écrit ça vraiment dans mon coin, c'est sorti un peu en mode vomito pendant 2 mois, blarf, comme ça, très vite. Et puis, je savais pas trop quoi en penser, j'étais un peu perplexe, genre j'étais arrivée à cet objet-là et puis je savais pas trop quoi en penser, c'était un peu bizarre quand même, l'histoire d'un mec qui sniffle les morts, c'est pas très glamour, donc j'étais vraiment très perplexe, genre je savais pas quoi en faire de ce bouquin, je savais pas si c'était bien, si c'était nul, j'étais un peu comme ça, un peu désœuvrée, il y a un peu un côté baby blues quand on termine le livre, on se sent un peu inutile quoi, je veux dire, on a sorti le truc et puis maintenant je fais quoi, je sais pas. Donc il y a un peu une petite déprime post-écriture, quoi, je trouve. Mais...
Marie Mangès, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'un deuxième roman est prévu ?
Alors oui, il est en cours. Pas encore fini, mais presque. Donc il est en cours, mais je peux rien vous dire. C'est top secret défense. Ce sera sur un sujet complètement différent. C'est tout ce que je peux dire, mais... Ce sera pas l'histoire d'un cuisinier qui a perdu le goût. Désolée, ce sera sur un tout autre sujet.
Merci Marie Mangès. Je rappelle le titre de votre premier roman, Le Parfum des Cendres, aux éditions Finitude.
Merci à vous beaucoup pour toutes ces questions.
Un incontournable en littérature sur cette thématique, présenté par Mauben.
Le Parfum de Patrick Suski. Dès les premières pages, ça a été une découverte olfactive, au point que ma vue a muté et est devenue de narine. La distance que le narrateur arrive à nous faire prendre pour nous priver d'affect face aux horreurs de Jean-Baptiste Grenouille est parfaite. Au bout de 20 pages, Grenouille découvre la rue et il sent une odeur qui l'attire, lui qui peut toutes les sentir. Une gamine rousse de 13 ans. Il la sent et la tue. Relu 15 ans après, comme le vin, il est meilleur, bien en bouche et complet, donc équilibré, riche, parfaitement constitué. Et réunissant toutes les qualités. Ce qui rend ce livre indétrônable sur le sujet des odeurs. À travers l'odorat, une quête identitaire et un besoin de domination fait de grenouille, le semblable refoulé ignoré de tout homme.
Sephora, un magasin où se mélangent plusieurs odeurs qui n'en font qu'une. C'est le mélange de parfums qui rend le contexte plus chaleureux. La mixité des produits exposés me laisse le choix. Mais moi, je suis indécis. La rose a traversé mes narines comme le CO2. Mais je veux être qu'une rose, pour son parfum méthodiquement arrogant et parfait. Le rouge couleur sang me fait augmenter ma confiance pour affronter le quotidien qui me coule à la peau. Chocolat au lait, il fait ouvrir mes sens et me fait saliver à l'approche du coulant se posant sur ma langue. La fumée de la chaleur du chocolat transporte le désir du charmant contact avec ma bouche. La lavande, le bruit du bourdon se posant sur le violet dégage une sincère émotion de vie comme l'étonnante odeur mystérieuse de la plante. Infusée dans une casserole d'eau chaude, l'odeur du bonheur quand je renifle cette menthe me fait voyager à travers tout mon corps et purifie mon esprit. Vanille, son parfum doux et extraordinaire me rappelle à quel point je suis hors norme et naturel. Comme une envie de manger l'air qui se dégage lorsque j'écrase une gousse de vanille.
Il est temps de vous dire au revoir. Merci pour votre écoute et votre attention.
On espère que cette émission vous aura plu.
À bientôt sur les bonnes ondes de Radio B.